Chapitre 8. Une fois rentrée chez elle, après leur séance d'analyse de ses blessures, le premier mouvement de Didi fut d'appeler le médecin légiste Ben Whitley. Alex avait dû partir à son travail, donc elle était seule, allongée sur le canapé, encore en tenue de yoga. « J'aurais une question », dit-elle à la seconde où Ben décrocha.
« Didi !»
s'exclama Ben. Le légiste n'était pas exactement l'homme le plus expansif du monde. Mais pendant les années où il avait fréquenté Neil, Didi et lui avaient appris à se connaître et ils étaient restés amis, même après la rupture.
« J'ai appris pour ta fracture par arrachement. On peut te faire confiance pour te blesser de la manière la plus originale possible. »«
J'essaye. » »«
Le bras gauche ?»
Oui.
Poche de glace, kiné, repos?
Oui, oui, surtout.
Tu dois péter les plombs?
Tu m'étonnes.
Et c'est pour ça que tu m'appelles? Laisse-moi deviner. Tu veux des infos sur notre dernier écorché?
Non. Pour la première fois, Ben fut pris de court. Didi l'entendait pratiquement réfléchir au bout du fil. Pas sur la seconde victime, lui expliqua-t-elle de bonne grâce. J'imagine que tu commences seulement son autopsie.
C'est programmé pour la fin d'après-midi.
Donc c'est sur la première victime, Christine Ryan, que j'ai une question. Je suppose que tu as passé plus de temps sur cette dépouille et comme tu es un légiste hors pair, un des meilleurs qu'on ait jamais vu...
Flatté, flatté, il en restera toujours quelque chose.
Et que tu as déjà examiné les lanières de peau?
Exact.
Tu as peut-être quelques théories sur le type de lame utilisée par le criminel?
Exact, là encore. Une lame très mince... avec un tranchant sans la moindre ébréchure ni imperfection. Mais la question à $1000, c'est de savoir si c'était un couteau ou plutôt une lame de rasoir.
Oh ! Elle n'y avait pas pensé. Cela dit, étant donné... Est-ce qu'un rasoir ne serait pas difficile à manier pendant une opération aussi compliquée ? Je veux dire, d'accord, ça ferait un bon outil vu la finesse des bandelettes. Mais si on tient compte du nombre de bandelettes... Disons les choses carrément, est-ce qu'un rasoir ne serait pas devenu trop glissant?
Il était peut-être monté sur un manche. Imagine un bon vieux rasoir droit ou un cutter, aussi bien. L'autre hypothèse du jour, c'est celle du bistouri. En revanche, je suis en train de revenir sur l'idée du couteau. D'abord, j'en ai testé des dizaines ces dernières semaines et aucun n'a donné le même résultat. Lors de mes essais, en tout cas, les lames relativement larges et épaisses avaient tendance à tirer sur la peau et à froncer les bords. Alors que notre ami découpe des lanières de tissu cutané très fines, aux bords lisses. Ce qui, ajouterai-je, dénote clairement une certaine habitude. Même avec mon expérience, il m'a fallu de nombreuses tentatives pour bien exécuter le geste. Bien sûr, au début, j'étais handicapée par le mauvais choix de mes armes. Maintenant que j'ai élargi le champ de mes investigations à des instruments chirurgicaux, il me semble que j'arrive de mieux en mieux à reproduire la précision de ces découpes.
Je vois. Didi prit un instant de réflexion. Elle n'avait pas songé que l'assassin avait pu se servir d'un bistouri et possédait peut-être au moins des notions de chirurgie. Mais cette hypothèse n'était pas nécessairement incompatible avec l'idée de génie qu'elle avait eue, bien au contraire. « J'imagine, continua-t-elle, qu'un médecin légiste de ton grand talent... »«
Déjà fait le cirage de pompe. Didi abrège, j'ai une grosse journée. »«
Tu as essayé de remettre les lanières de peau bout à bout. » Pour reconstituer le puzzle.
Essayer, c'est le mot juste.
Parce que c'était impossible. La voix de Didi monta d'un cran. Son pouce accéléra. La voilà, l'illumination qu'elle avait eue au milieu de la nuit. Tu as découvert que tu n'avais pas tous les morceaux. Certaines lanières de peau avaient disparu, emportées par l'assassin.
Bingo! Apporter son lot à la jolie blondinette. Dis-moi la vérité, c'est grâce à tes boucles d'or que tu écrases la concurrence?
Exactement. Quelle quantité de peau il manque? Un peu? Beaucoup?
Je dirais 5 ou 6 lanières. Assez pour qu'une victime vivante s'aperçoive qu'il lui manque comme un truc.
Didi avait vu juste. L'assassin n'écorchait pas ses victimes par pur fétichisme. C'était aussi un moyen pour lui de se procurer l'objet de son désir le plus cher. C'est-à-dire un souvenir éminemment personnel de son crime. Elle reporta son attention sur son interlocuteur. Dernière question. La peau de la victime, est-ce qu'elle a reçu un traitement préalable? Est-ce qu'on a retrouvé dessus des produits intéressants? De l'alcool, disons, ou pourquoi pas du formol?
Tu te demandes si l'assassin aurait cherché à conserver son trophée en passant une solution sur la peau de sa victime.
L'idée m'a traversé l'esprit.
Oui et non, je dirais. On a retrouvé des traces de savon antiseptique sur ce qui restait de peau sur le torse de Christine Ryan. Mais ni sur les bras, ni sur les mollets. Si la victime avait pris un bain avant d'aller se coucher, on aurait dû en retrouver sur tout le corps. Comme ce n'est pas le cas, on peut supposer sans risque que c'est l'assassin lui-même qui a passé une solution nettoyante sur le buste de la victime, probablement avant de l'écorcher.
Didi traduisit. Comme le ferait un chirurgien, pour préparer la peau avant une incision?
Une vraie préparation cutanée aurait supposé le badigeon du champ opératoire avec un antiseptique classique. Or, la plupart sont alcooliques. La peau de notre victime a été toilettée, mais pas badigeonnée.
Donc, le tueur a pris la peine de nettoyer le site opératoire, mais pas de le désinfecter.
Je crois, oui. Et pour finir de répondre à ta précédente question, je n'ai pas retrouvé de traces de formol, donc pas d'agent de conservation.
D'accord.
Mais ça n'exclut pas que l'assassin ait fait le nécessaire après coup pour conserver son trophée.
Continua le légiste, se prenant de passion pour le sujet.
Avec deux sous de jugeote, il a pu mettre les lanières dans un bocal de formol ou même les faire sécher par salaison. Les possibilités sont infinies, à vrai dire.
C'est bon à savoir.
Il ne fallait pas me poser la question.
Les risques du métier. Donc, si je récapitule, notre assassin neutralise sa victime avec du chloroforme, puis l'asphyxie par compression. Ensuite, il la déshabille et lui nettoie la peau avec un savon antiseptique avant de passer au clou de la soirée, qui consiste à détacher délicatement de longues bandes de peau de son buste et du haut des cuisses. Opération dont tu penses qu'elle a pu être accomplie avec un bistouri. Après quoi, l'assassin quitte les lieux, non sans avoir fait main basse sur une partie des lanières en guise de trophée particulièrement macabre. Tu valides ?
Je n'aurais pas mieux résumé.
Didi poursuivit son raisonnement. Ce qui signifie que notre assassin s'y connaît en chirurgie et ou en préparation cutanée, mais aussi qu'il est à l'aise avec les cadavres. En fait, étant donné que l'essentiel des réjouissances se déroule après le décès, il est peut-être à l'aise surtout avec les cadavres.
Comme Jeffrey Dahmer ?
Demanda le légiste.
Le nécrophile, c'est ça ? Qui ne pouvait pas s'empêcher de conserver une partie du corps de ses victimes ? Qui cherchait soi-disant l'amant idéal, celui qui ne pourrait jamais le quitter ?
Sauf qu'aux dernières nouvelles, nos deux victimes ne présentaient aucun signe d'agression sexuelle, si ?
Je n'ai rien trouvé.
Didi hocha la tête en silence, puis s'avisa qu'il fallait parler dans le combiné. Merci, cette conversation m'a grandement aidée.
Tu as démasqué l'assassin ?
Pas encore, mais j'ai une petite idée du métier qu'il pourrait exercer.
Tu vas enquêter dans les hôpitaux et les écoles de médecine ?
Je vais demander à Neil d'avancer sur ce front-là. De mon côté, je vais faire un tour dans les funérariums. La raison aurait dû lui dicter d'attendre qu'Alex rentre du travail. Il aurait pu l'aider à passer une tenue correcte et à s'installer au volant. Mais Didi n'était pas d'humeur raisonnable, plutôt d'humeur opiniâtre et en outre très remontée contre son bras, contre son épaule, contre Melvin. Elle était une femme forte, indépendante, et elle avait une affaire sur le feu. Elle allait s'habiller et ce connard de Melvin n'aurait qu'à aller voir ailleurs si elle y était. Melvin, naturellement, ne l'entendait pas de cette oreille. Les ennuis commencèrent lorsqu'elle essaya d'enlever son t-shirt à encolure bateau. Tirer le tissu élastique par-dessus son épaule droite provoqua curieusement un élancement dans l'épaule gauche. Ensuite, lorsqu'elle eut enfin fait passer le vêtement par-dessus sa tête, il fallut le faire glisser le long du bras gauche, puis retirer le pantalon de sport moulant. Franchement, il n'y avait aucune raison d'utiliser les muscles de son épaule pour faire descendre un pantalon de yoga en se trémoussant. Et pourtant, son bras gauche s'embrasa et elle sentit la sueur perler sur sa lèvre. On aurait dit que plus elle cherchait à ménager son côté gauche, plus chaque mouvement exaspérait son cou, son épaule, le haut du bras. Serrant les dents, elle attrapa son pantalon gris-souris dans son placard et passa ses pieds dans les jambes avec détermination. Ensuite commença l'opération laborieuse consistant à le remonter centimètre par centimètre avec sa main droite. Elle réussit finalement à le faire glisser jusqu'au-dessus des hanches, mais se trouva dans une impasse. Pas moyen de fermer le bouton. Elle fit 4 tentatives, en vain. Un pull trop grand, se dit-elle, éperdue. Ou bien une veste. Elle allait porter un haut long qui dissimulerait la ceinture de son pantalon. Ni vu ni connu. C'était tellement logique qu'elle s'assit sur le lit et fondit en larmes. Tout cela lui faisait horreur. Ce sentiment d'inutilité, d'impuissance, d'intense frustration. Elle reprochait à son corps de ne pas guérir. Elle en voulait à son épaule de la faire souffrir et à son stupide tendon d'avoir arraché un morceau d'os. Et si elle devait ne jamais s'en remettre tout à fait? Il s'agissait d'une lésion rare. Personne n'avait pu lui donner de pronostic précis. Dans 6 mois, serait-elle enfin capable de s'habiller? De tenir un pistolet? De prendre son enfant dans ses bras? Ou bien en serait-elle toujours à ce stade? À traîner dans les vêtements de son mari, réduite à raconter les souvenirs de sa grande époque en se demandant secrètement quel autre destin aurait pu être le sien. Elle ne pouvait pas être une femme finie. Pas encore. Elle était trop jeune, trop passionnée, trop enquêtrice dans l'âme. Impossible de tourner la page. Pas avec ce boulot chevillé au corps. Même s'il lui avait fait du mal. Même si elle était devenue l'ombre d'elle-même. Elle se laissa tomber en arrière. À moitié nue, en pantalon et soutien-gorge, elle contempla le plafond. Puis elle ferma les yeux pour essayer de se remémorer ce qu'elle avait dû voir ce fameux soir, juste avant d'être violemment poussée dans les escaliers. Melvin, allô Melvin, je suis là, je suis prête, je veux savoir. Allez Melvin, lâche-moi la grappe et laisse-moi me souvenir. N'était-ce pas ce qu'avait dit le docteur Glenn? Que si elle parlait à sa douleur, si elle demandait directement à Melvin de l'aider à se souvenir, ce minable d'exilé rendrait les armes, qu'elle n'aurait plus qu'à se préparer à la suite. Melvin resta quoi? Ou plutôt, il continua à s'exprimer par élancement douloureux. Bla, bla, bla. « Je suis prête, » dit-elle entre ses dents dans la chambre silencieuse. « Je peux affronter ça, Melvin. Allez, espèce de misérable petit merdeux, je veux savoir, dis-moi. » Rien. Est-ce que c'était l'assassin, venu revivre son petit fantasme et qui a eu la mauvaise surprise de tomber sur moi? Sauf que la plupart des assassins se contentent de traîner leur guêtre à la périphérie du lieu de leur forfait. Aller jusqu'à passer sous le ruban du périmètre de sécurité, franchir le barrage de police, les mettrait en danger. Ils se retrouveraient incarcérés en moins de 2 pour intrusion et soumis à un interrogatoire. Bon, peut-être qu'un vrai psychopathe, un assassin convaincu de sa supériorité, serait attiré par ce petit jeu. Mais leur assassin à eux, un homme qui s'en prenait à des femmes seules dans leur sommeil, qui les anesthésiait aussitôt au chloroforme afin que même leur mort ne soit qu'une exécution rapide et sans douleur. L'espace d'une seconde, Didi visualisa l'individu en question. Un gringalet, souffrant d'une faible estime de lui-même, introverti, mal à l'aise devant les figures d'autorité, surtout les femmes. Un homme qui n'avait jamais connu de relation prolongée, et qui vivait sans doute dans le sous-sol chez sa mère. Mais pas un fils persécuté, habité par une colère refoulée et prête à exploser, non, ce type d'assassin aurait déchargé sa rage sur ses victimes une fois celles-ci en son pouvoir. Alors que celui-là, c'était un calme, au-dedans comme au-dehors. Mais peut-être un maniaque, poussé par une obsession qui s'efforçait cependant d'accomplir ce qu'il avait à faire en faisant le moins de vagues possible. Jamais les victimes n'avaient su ce qui leur arrivait. Il entrait, droguait, tuait, charcutait. Parce que c'était ce qui lui importait vraiment. Écorcher, récolter, collectionner. Un collectionneur. Sitôt que cette idée lui vint, Didi sut qu'elle était dans le vrai. Leur homme était un collectionneur. Ces crimes n'étaient pas le fruit de la colère ou d'une soif de violence, mais d'une pulsion irrésistible. À moins que leur homme ne fût une femme. Tous les sadiques sexuels, ou presque, sont des hommes. Mais dans le cas d'un collectionneur, l'absence d'agression sexuelle, l'usage de chloroforme pour prévenir toute résistance, même l'asphyxie par compression, Qu'avait dit Neil déjà ? Que c'était une manœuvre à la portée d'individus de toute corpulence. Il suffisait d'appuyer au bon endroit pendant suffisamment longtemps. Peut-être qu'en fin de compte, le assassin n'était pas un homme de petite taille qui courbait l'échine en société, mais plutôt une femme, dont la présence n'aurait pas éveillé les soupçons des voisins s'il l'avait vue entrer tard le soir chez une autre femme. Qui, même surprise sur les lieux du crime à la nuit tombée, aurait pu avec davantage de crédibilité se faire passer pour une amie intime de la victime. Était-ce possible ? Quand Didi était retourné dans l'appartement de Christine Ryan, ce n'était peut-être pas un homme qui lui était tombé dessus, mais une femme, surgie de l'obscurité. Melvin ! Allez, Melvin, parle-moi ! Mais Melvin refusa de piper mot. Didi en avait plein le dos. Elle se redressa, traversa la chambre comme un boulet de canon, enfila un pull beige trop grand avant d'avoir le temps de se raviser, puis serra les dents sous le déferlement de douleur. « Envie de râler, Melvin ? » marmonna-t-elle. « Envie de te mettre en rogne ? Alors vas-y, je vais t'en donner, moi, des raisons d'être en colère. On va s'amuser un peu. » Didi Warren, commandant de police, descendit l'escalier au pas de charge, sortit de chez elle et monta en voiture, prête à partager sa douleur avec le monde entier.